Jour J. Juste après minuit. Jen est bien contente qu'on change d'heure cette nuit. Du temps en plus, une heure de gagnée, au cours de laquelle elle fera semblant de ne pas attendre le retour de son fils. Maintenant qu'il est minuit passé, on est officiellement le 30 octobre. Bientôt Halloween. Jen se dit que Todd a 18 ans, que son bébé de septembre est désormais un adulte. Il fait ce qu'il veut. Elle a passé une bonne partie de la soirée à sculpter, mal, une citrouille. Elle la pose sur le rebord de la baie vitrée qui donne sur leur allée et elle l'allume. Elle l'a sculptée parce qu'elle s'y est sentie obligée, comme souvent avec elle, mais le résultat est assez beau, dans le genre irrégulier. Entendant les pas de son mari Kelly sur le palier du dessus, elle se retourne. Ça ne lui ressemble pas d'être encore debout. Il est du matin. Elle est un oiseau de nuit. Dans la pénombre, il sort de leur chambre située au dernier étage. Ses cheveux en bataille paraissent bleu-noir. Nu comme un ver, il ne porte sur lui qu'un petit sourire amusé sur un côté de sa bouche. Il descend l'escalier vers elle. Le tatouage sur son poignet attrape la lumière. Une date, le jour où, d'après lui, il a su qu'il était amoureux d'elle. Printemps 2003. Jen le regarde. Seuls quelques poils bruns sur son torse ont blanchi pendant l'année. Sa 43e. Tu t'actives, je vois. Il montre la citrouille. Tout le monde en avait fait une? Explique Jen, penaude. Tous les voisins. Et alors? Kelly dans toute sa splendeur. Todd n'est toujours pas rentré. C'est le début de la soirée pour lui. Il a un petit accent gallois, à peine décelable, comme si son souffle trébuchait sur une chaîne de montagne. Ce n'est pas jusqu'à 1h du matin? Sa permission de sortie? C'est le genre de discussion qu'ils ont régulièrement. Jen s'inquiète beaucoup. Kelly peut-être pas assez. Au moment où elle y pense, il se retourne et voilà, ses fesses parfaites, absolument parfaites, dont elle est amoureuse depuis presque 20 ans. Après un dernier coup d'œil sur la rue, pour guetter le retour de Todd, elle revient vers Kelly. « Maintenant, les voisins peuvent voir ton cul, » dit-elle. « Ils penseront qu'on a une deuxième citrouille, » répond-il aussi vif et tranchant que la lame d'un couteau. Le badinage. Ça a toujours été leur moyen de communication. « Tu montes te coucher ? Je n'en reviens pas d'avoir terminé Merylox, » ajoute-t-il en s'étirant. Toute la semaine, il a restauré le carrelage victorien au sol d'une maison de Merylox Road. Il a travaillé tout seul, exactement comme il aime, écoutant podcast après podcast et ne voyant presque personne. Compliqué, vaguement insatisfait, telle est Kelly. « Oui, » dit-elle, « j'arrive. Je veux juste m'assurer qu'il est bien rentré. » « Il sera là dans 1 minute avec un kebab à la main. » Il agite la sienne. « Tu attends les frites ?»« Arrête, » répond-elle avec un sourire. Kelly lui adresse un clin d'œil et va se coucher. Jen marche sans but dans la maison. Elle repense à un dossier sur lequel elle travaille en ce moment, un couple en plein divorce qui se chamaille apparemment autour d'un service d'assiettes en porcelaine, en réalité bien sûr pour une histoire de trahison. Elle n'aurait pas dû accepter. Elle a déjà plus de 300 dossiers. Mais lors du premier rendez-vous, Madame Vichard l'a regardée et a dit « Si je dois lui donner ses assiettes, j'aurais perdu tout ce que j'aime. » Et Jen n'a pas pu résister. Elle aimerait bien ne pas être si sensible aux inconnus qui divorcent, aux voisins, à ces foutues citrouilles, mais c'est plus fort qu'elle. Elle se fait un thé et le remonte jusqu'à la baie vitrée, toujours à l'affût. Elle attendra aussi longtemps que nécessaire. Pour des raisons certes différentes, les deux phases de la parenté, les toutes premières années et celles qui précèdent l'âge adulte, sont marquées par le manque de sommeil. S'ils ont acheté ici, c'est pour cette fenêtre, située exactement au centre de la maison, à 3 niveaux. « On contemplera le monde comme des rois », avait dit Jen, ce qui avait fait rire Kelly. Elle scrute la bruine d'octobre, et voici que dans la rue, enfin, apparaît Todd. Jen le voit au moment précis où le changement d'heure a lieu et où son portable passe de 1h59 à 1h. Elle réprime un sourire. Grâce au recul de l'heure, Todd n'est plus en retard. C'est tout lui. Il considère les nuances linguistiques et sémantiques autour d'une permission de sortie plus importantes que la raison qui la motive. Dans la rue, il avance à grands pas. Il est tout maigre. On dirait qu'il ne grossit jamais. Ses genoux saillent contre son jean quand il marche. La bruine est incolore. Les arbres et le trottoir sont noirs. L'air est d'un blanc translucide. Un monde au ton gris. Leur rue, tout au fond de Crosby, dans le comté de Merseyside, n'est pas éclairée. Kelly a installé un lampadaire à la Narnia devant la maison. Il avait fait la surprise à Jen, tout en fer forgé, coûteux. Elle ignore où il a trouvé l'argent pour l'acheter. Le lampadaire s'allume dès qu'il détecte du mouvement. Mais, attendez, Todd a vu quelque chose. Il s'arrête net, plisse les yeux. Jen suit son regard, puis comprend. Une silhouette presse le pas dans la rue, de l'autre côté. Un homme, plus âgé que Todd, beaucoup plus âgé. Elle le voit à son corps, à ses gestes. Elle a l'œil pour ces choses-là, depuis toujours. C'est ce qui fait d'elle une bonne avocate. Elle plaque sa main chaude contre la vitre froide. Quelque chose ne va pas. Quelque chose est sur le point de se produire. Jen en est sûre, mais elle ne saurait dire ce que c'est. Elle a l'instinct du danger, le même qui la guide quand elle se trouve près d'un feu d'artifice, d'un passage à niveau ou d'une falaise. Les pensées défilent dans son cerveau, comme mues par le déclencheur d'un appareil photo, l'une après l'autre. Elle pose son mug sur le rebord de fenêtre, appelle Kelly et dévale l'escalier en sautant les marches deux par deux, sentant sous ses pieds le tapis à rayures rêches. Elle enfile ses chaussures, puis s'arrête un instant, la main sur la poignée métallique de la porte d'entrée. Quelle est cette sensation? Elle ne peut l'expliquer. Est-ce une impression de déjà-vu? Ça ne lui arrive presque jamais. Elle cligne des yeux et puis plus rien, comme un nuage de fumée. Qu'est-ce que c'était? Sa main sur la poignée en laiton? Le lampadaire jaune qui éclaire dehors? Non, elle ne se rappelle plus. C'est passé. Quoi? Demande Kelly en arrivant derrière elle, occupée à nouer un peignoir gris autour de sa taille. Todd, il est dehors avec quelqu'un. Il se précipite. Le froid de l'automne la saisit aussitôt. Elle court en direction de Todd et de l'inconnu. Mais avant même qu'elle comprenne ce qui se passe, Kelly hurle « Stop !» Todd court et au bout de quelques secondes empoigne le blouson à capuche de l'inconnu. Il lui fait face, tendu, les épaules en avant. L'inconnu plonge une main dans sa poche. Kelly se rue vers eux, affolée, regardant à droite, à gauche, devant, derrière. « Todd, non !» crie-t-il. Et c'est là que Jen voit le couteau. Grâce à l'adrénaline qui affûte sa vision, elle ne manque pas un détail de l'action. Un coup de couteau rapide, net. Soudain, tout ralentit. Le mouvement du bras qui se rétracte, le tissu du vêtement qui résiste puis libère le couteau. Deux plumes blanches ressortent en même temps que la lame et volettent dans l'air froid, comme des flocons de neige. Jen regarde le sang qui commence à gicler, abondamment. Elle est sans doute à genoux, car les petits cailloux de l'allée lui cisaillent la peau. Elle le prend dans ses bras, ouvre son blouson, sent la chaleur du sang qui lui coule le long des mains, entre les doigts, sur les poignets. Elle défait sa chemise. Son torse commence à être inondé. Les trois plaies en forme de fente apparaissent et disparaissent. C'est comme essayer de voir le fond d'une mare rouge. Elle est transie de froid. « Non !» Elle crie d'une voix épaisse et liquide. « Jen !» fait Kelly. Il y a tellement de sang.